Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mes chers camarades, bien le bonjour. Sortira dans quelques jours un entretien avec Bruno Dumézil, historien médiéviste, spécialiste du haut Moyen-Âge et plus particulièrement des barbares, de la conversion au christianisme et de l'histoire des premiers royaumes européens. Mais avant que l'on s'intéresse à tout ça, je vous propose que l'on se penche avec Bruno sur un point central de ce sujet, les barbares en eux-mêmes. Qu'est-ce qu'un barbare dans l'Antiquité ? À quand remonte exactement cette notion ? Et est-ce qu'elle a évolué dans le temps ? Pour finir, qu'est-ce qu'un barbare à notre époque ? Eh bien, découvrez la réponse à tout ceci en attendant l'entretien dans son intégralité. Bonne écoute sur Nota Bene.
Alors, aujourd'hui, quand on parle de barbare, on a quand même ce cliché d'un gros guerrier un petit peu bourrin et poilu qui nous vient en tête. Ce cliché, finalement, il n'est pas nouveau. De quand est-ce qu'il date ?
Il date de l'apparition de l'idée de barbare, donc vers le 6e, 5e siècle avant notre ère. C'est les Grecs qui inventent le mot de barbaroi. C'est les gens qui font barbare quand ils parlent. Donc en fait, c'est une différence de langue, mais rapidement, c'est une différence de tout, de comportement, de pilosité aussi. Si tu as la barbe trop longue ou si les cheveux sont mal peignés, c'est barbare, parce que les barbares sont rebelles et donc leur poil est rebelle également. Et donc, on voit vers le 5e siècle tous les clichés se créer les uns après les autres. Donc, l'idée que le barbare est proche de l'animal, parce que comme l'animal, il ne parle pas vraiment, qu'il est trop violent, qu'il habite ailleurs aussi, parce que les Grecs vont inventer deux barbares, en fait. Le barbare du Nord, qui est blanc et poilu, et le barbare du Sud ou de l'Est, qui lui est chauve ou un peu glabre, et qui est un peu fourbe, qui n'est pas fort, et donc il a un autre comportement. Et toutes ces idées-là sont à peu près posées dès l'époque d'Hérodote, disons 5e siècle avant notre ère. On a inventé le barbare et on va l'utiliser à toutes les sauces pour décliner ce qu'est l'autre et en même temps pour dire qui on est nous-mêmes, puisque les Grecs n'existent pas jusque-là. On va inventer les Grecs en se distinguant des barbares. Et c'est Thucydide qui est le premier, dit ben, les barbares n'existaient pas tant que les Grecs n'existaient pas, parce que tant qu'on n'avait pas le sentiment d'être un peuple, on ne pouvait pas penser que les autres étaient différents.
Et alors, donc on est sûr que cette origine remonte aux Grecs ou est-ce que ça peut remonter avant et dans d'autres zones géographiques, je pense aux Égyptiens par exemple ?
Alors, l'idée que les autres sont différents et donc moins bien, ça a toujours existé. Les Égyptiens, ils n'avaient pas de barbares, mais ils avaient les neuf arcs. Donc, les Égyptiens, dès les premières dynasties, dès l'époque de Djoser, expliquent qu'ils sont entourés par neuf peuples dangereux. Donc, si tu regardes sous les statues de tous les pharaons, il y a neuf arcs qui sont positionnés et le pharaon piétine les neuf arcs. Alors, les neuf arcs, évidemment, ça va dépendre, parce que l'histoire pharaonique, ça dure 3000 ans. Donc, les arcs vont changer selon les ennemis. Donc, à certains moments, ça sera les Grecs, à d'autres moments, ça sera les Nubiens, etc. Mais il est important que le pharaon écrase en permanence les barbares. Et donc, Toutankhamon, qui avait sans doute un gros problème de handicap, lui, on lui a mis sous ses sandales. Comme ça, il pouvait marcher sur les barbares en permanence.
Alors, le concept, il existe aussi chez les Romains. Alors, il est plutôt semblable, mais il est quand même un petit peu différent. Est-ce que tu peux nous expliquer à quel niveau et peut-être aussi comment ce concept de barbare s'est transféré de la Grèce à Rome ?
Alors, pour les Grecs, le civilisé, c'est donc le Grec, c'est quelqu'un qui a le même sang, la même religion, la même culture, les mêmes mœurs. Les Romains vont être gênés vis-à-vis de ça parce qu'ils ont bien le sentiment de ne pas être Grecs. Et lorsqu'ils l'emportent et qu'ils s'emparent de l'ensemble du bassin méditerranéen, ils vont essayer de dire, bon, globalement, on est gréco-romain, et donc les barbares, c'est les autres juridiques. Et c'est ça qui va être important. Les Grecs n'avaient pas tant cette distinction-là. Pour les Romains, c'est les gens qui ne possèdent pas la citoyenneté romaine ou la citoyenneté latine, puisqu'il y a différents degrés de citoyenneté, les gens qui habitent de l'autre côté d'un endroit qu'on va commencer à définir comme la frontière. Donc c'est l'époque où on invente la limite, limes en latin. Donc l'idée que l'Empire romain, c'est une frontière plus ou moins militarisée, et que de l'autre côté, il y a des barbares potentiellement dangereux qui vivent.
Et alors, par la suite, dans les périodes suivantes, est-ce qu'on va rester sur une définition qui est semblable, avec le même concept, ou est-ce que ça va évoluer justement ? Est-ce que le barbare reste toujours le même barbare ?
Alors, il change, mais le romain déjà est capable de le faire changer, parce que comme l'Empire progresse, dès qu'on s'empare d'une région, Les gens qui acceptent de rejoindre Rome, ils ne sont plus vraiment barbares, c'est le cas des Gaulois. Les Gaulois, ils ont commencé comme barbares, et puis petit à petit, on leur donne la citoyenneté, ils se mettent à porter des toges. C'est pour ça qu'on a tant de statues avec des toges et des visages sans barbe. C'est parce que les notables Gaulois ont bien montré que si on changeait d'apparence, on pouvait devenir romain. Et donc, en fait, le barbare romain est beaucoup plus plastique que le barbare grec. On peut sortir de la barbarie. Et puis, quand le monde romain devient chrétien, à partir du IVe siècle, petit à petit, l'idée, c'est que le barbare, c'est celui qui a une autre religion. Et c'est ça qui va l'emporter au Moyen-Âge. Vers 600, le pape Grégoire le Grand va expliquer que le barbare, c'est celui qui n'a pas adopté le christianisme. Donc, ça peut être ton ancêtre. Nos ancêtres étaient tous barbares. Ça peut être les peuples voisins qui ne savent pas encore que le christianisme existe. Et dans ces cas-là, il y a le barbare gentil. L'ancêtre, il n'a rien fait de mal. Le voisin qui ne sait pas que le christianisme existe, il n'a rien fait de mal. Mais le pape dit, les barbares qui savent que le christianisme existe et qui ne veulent pas s'y convertir, à cela, il pose problème. C'est les mauvais barbares, et ça ne dure jamais très longtemps. On peut sortir de la barbarie en rentrant dans le christianisme.
On le voit sur différents types de sujets, donc on s'est intéressé aux Vikings ensemble dans le bouquin, et on voit qu'il y a des évolutions manifestes de la représentation de ces populations qui sont souvent à partir du 19e siècle. Est-ce que ça a été le cas aussi pour les barbares? Est-ce que le 19e siècle, c'est un siècle pivot dans le changement de la perception des barbares?
Alors c'est un siècle pivot sans l'être, parce qu'au 19e siècle, on retrouve aussi toutes les sources de l'Antiquité. Donc, on découvre les textes de Tacite qui expliquent que les Germains avaient des cheveux en sorte d'éventail au-dessus du crâne. Et donc, on se met à représenter les barbares avec ces cheveux-là. On retrouve les statues antiques qui montrent des barbares avec des muscles trop saillants, parce que c'est une façon de montrer le barbare aussi, trop musclé, trop dangereux. Et donc, au 19e siècle, on se met à représenter les barbares comme ça. Et ça va nous donner Schwarzenegger au cinéma, parce que quand on aura besoin d'incarner Conan le barbare, on va prendre quelqu'un qui était Mister Univers à l'époque. Et puis, le 19e siècle va en fait racialiser le barbare. Ça, c'est nouveau. Il n'y avait pas de racisme dans l'Antiquité ni au Moyen-Âge. Il y avait de la xénophobie partout, c'est-à-dire que dès qu'il y avait un voisin, on ne le supportait pas, mais pas sur des critères de race. Au 19e siècle, on va essayer de dire qu'il y a des peuples barbares vraiment unis par le sang et qui gardent ces caractéristiques pendant longtemps. Alors, les Français, notamment, vont beaucoup parler des Germains, en disant que les Germains ont toujours produit des envahisseurs qui cassent tout. Et donc, les Allemands qui ont mis une rouste à la France en 1870, c'est parce que fondamentalement, c'est des envahisseurs germains. Et donc, on va développer l'idée qu'il y a eu des grandes invasions et que ces grandes invasions reviennent régulièrement. Et puis, on va utiliser aussi le barbare vis-à-vis des peuples orientaux, en disant que, regardez, ils étaient mous et décadents, c'est ce que disait déjà Hérodote. Et donc, on a eu raison de les coloniser, parce que ça permet de les sortir de la décadence. Puis, on va l'utiliser vis-à-vis des peuples africains, où aussi, il y a quelques textes antiques qui disaient que quand il fait trop chaud, le sang n'irrigue pas bien le cerveau et qu'ils sont un peu bêtes. Et donc, on va reprendre ces textes pour dire qu'on a eu raison de coloniser l'Afrique et que depuis toujours, on sait que ces peuples-là sont dans la barbarie.
On va en reparler hein, d'ailleurs des migrations barbares, parce que ça va être vraiment le centre de cet entretien. Juste, tu as évoqué le nom de Schwarzenegger. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire justement à propos de la fantaisie et du rôle du barbare? Parce que c'est vrai que le barbare, en tout cas, pour moi, enfant des années 90, qui est grandi avec Schwarzenegger, c'est Conan.
Ben, c'est normal, hein. La fantaisie, ça vient avec le barbare. Hein. Parmi les premiers ouvrages de la fantasy, ben, il y a le Ver Ouroboulos des années 1920 qui se passe sur une planète dont on nous dit qu'elle est barbare. Et puis 1930, un certain Robert Howard invente le personnage de Conan le barbare. Et donc, on va avoir toutes les nouvelles qui vont faire naître la fantasy. On est avant le Seigneur des Anneaux, hein, on est avant l'époque, Lewis, Tolkien. Et le barbare, et c'est vraiment le premier personnage de la fantasy. Et après, il va revenir. Hein. Toi qui es un enfant des années 80, tu te souviens des parties de Donjons et Dragons. Le barbare est un personnage jouable dans Donjons et Dragons à partir de 1981, c'est-à-dire c'est un des premiers à pouvoir être joué.
Merci à tous d'avoir écouté cet extrait du prochain entretien qui sera disponible très bientôt sur Nota Bene. À bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes. En attendant, que vous nous suiviez sur Castbox, Apple Podcast, Podcast Addict ou toute autre plateforme qui propose cette fonction, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez même nous laisser une note et, soyons fous, un petit commentaire. Je le lirai avec plaisir.